glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein ? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront, vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non mais d'accord.
Vous allez avoir des OGM à plein.
Vous avez totalement raison d'être là-dessus.
Eh ben oui, mais demain, comment vous allez faire pour fermer les frontières françaises en disant...
Mais je ne veux pas les fermer.
On n'en veut pas, on prend du produit français.
Alors, les frontières françaises, d'abord, je ne vais pas les fermer.
Cette alimentation va se retrouver dans l'assiette des Français.
Non, parce que...
Bah si, dites-moi comment vous allez faire.
D'abord, un, l'avenir de l'agriculture, il n'est pas dans la fermeture, quelle qu'elle soit. Votre filière, vous êtes dans quoi?
Céréales,
vous.
Pareil.
Bon, vous êtes une filière qui exporte. Hein.
Oui.
Bon, donc je vais pas. Ça marche pas de dire on ferme d'un côté et on ouvre de l'autre. Bon, donc notre économie, notre agriculture, c'est d'ailleurs une de ses fiertés. Elle est exportatrice. Elle a donc besoin d'être ouverte.
Oui, bon. Mais
on est gagnant sur le Mercosur. La négo n'est pas finie.
L'altercation a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end et a polarisé les commentaires autour de la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Deux céréaliers, membres du syndicat agricole FNSEA, interpellent successivement le président de la République sur l'interdiction du glyphosate, puis sur les discussions de libre-échange avec le Mercosur, la zone économique d'Amérique du Sud dont ils craignent la concurrence, mais surtout les produits qui ne respectent pas les règles environnementales et sanitaires européennes. Cela n'a rien d'anecdotique, les questions environnementales ont souvent été reléguées au second plan face aux problématiques réelles touchant aux conditions économiques et sociales de la production et la distribution agricole. Ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est ce que disent un certain nombre de chercheurs depuis des années, on ne peut séparer des enjeux comme la précarité, l'organisation des filières, la santé publique, l'économie et donc l'écologie. Reste une question centrale, politique celle-ci, comment arbitrer quand il s'agit de faire un choix entre différents impératifs catégoriques, entre le présent et le futur, entre l'écologie et la société, comment s'orienter et où atterrir pour reprendre l'expression du sociologue Bruno Latour, interviewé dans le dernier numéro de la revue Esprit, la revue Esprit, justement, il en sera question lors de cette émission avec vous, Lucille Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente de la Green European Foundation, vous êtes aussi membre du comité de la rédaction de la revue Esprit, dont vous avez co-dirigé le dernier numéro qui s'appelle « Les mondes de l'écologie », les mondes au pluriel, on aura peut-être l'occasion d'en revenir. Je dirais aussi que vous avez été un temps engagé en politique, vous avez été élu d'abord au Parti Socialiste, puis Europe Écologie Les Verts, mais vous avez abandonné tout mandat électoral, ce qui vous donne évidemment une grande liberté de parole ici à ce micro aujourd'hui. Alors, les enjeux écologiques, ce thème du Salon de l'Agriculture, cet événement au Salon de l'Agriculture, il montre quoi? Que aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont totalement intégrées finalement au discours politique.
Je pense que ce que ça montre, c'est que depuis toujours, l'agriculture et les questions écologiques sont liées. On sait bien que la France est d'abord historiquement un grand pays agricole, que la construction européenne aussi lui a permis, c'est rappelé dans le petit reportage de l'altercation, comme on dit, entre Emmanuel Macron et plutôt l'échange musclé entre Emmanuel Macron et les représentants de la FNSEA. Ça fait longtemps que la France est un grand pays agricole. Ça fait depuis la construction européenne qu'elle exporte assez massivement et ça apporte des surplus importants à notre commerce extérieur qui est malheureusement très déficitaire. Et en même temps, l'attachement des Français, ça a été révélé par plusieurs études d'opinion faites au moment de ce salon, dépasse de très loin les emplois agricoles. Je pense que c'est quelque chose d'important, ça fait partie quelque part de l'identité nationale française. L'écologie, d'une certaine manière, je crois qu'on était moins conscient que ça faisait partie de notre culture nationale. Et c'est un peu comme si la greffe écologique était venue prendre sur une culture nationale plus marquée par l'agriculture, avec les difficultés que ça pose en termes de contradictions, de conflictualités, comme vous venez de le montrer. Contradictions qui tiennent au fait que lorsqu'on imagine le modèle agricole à la fin des années 50, c'est un modèle productiviste, modernisé, qui apporte du progrès technique en fait aux agriculteurs. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est en cause, c'est la transformation du modèle dont on parle depuis maintenant 15 ans, 20 ans, et qu'on n'arrive pas à faire. Pour des raisons qui sont à la fois évidentes et très difficiles à surmonter. La première, d'abord, elle est sociale. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'une majorité, enfin 40% d'agriculteurs ont 350 euros par mois pour vivre, qui ne prennent pas de vacances, qui sont donc en dessous du RSA, il y a quelque chose qui nous interpelle tous. C'est-à-dire que si on est agriculteur, si notamment on est un jeune agriculteur, souvent on est pauvre. Et comment alors est-ce qu'on peut demander de transformer profondément un métier sans que la communauté nationale, la société, l'État investissent aux côtés des agriculteurs? C'est une question qui est posée. Et la question écologique doit être vue par rapport à ça. Elle peut pas être seulement vue comme une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui ils le ressentent.
Et alors justement, ça peut peut-être être posé à travers un discours politique, à travers une présence politique. Il y a eu celle du président Emmanuel Macron ce week-end au Salon de l'Agriculture. Il y a eu une absence, c'est celle du ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, qui s'est pourtant adressé aux agriculteurs dans une interview au JDD, au Journal du Dimanche, en leur disant « voilà, je vais peut-être ouvert à certaines dérogations sur l'interdiction du glyphosate ». Rappelons que l'Europe a demandé une interdiction dans les 5 ans, la France veut l'interdire dans les 3 ans, c'est-à-dire faire une sorte de mieux-disant écologique par rapport à cette question-là. On voit bien, comme vous le disiez à l'instant, Lucille Schmitt, qu'il y a cette forme de, on va dire peut-être pas de schizophrénie, mais en tout cas de contradiction et de difficulté pour, par exemple, une personnalité comme Nicolas Hulot, qui est engagé de manière apolitique, d'ailleurs, pendant toute une époque dans cette question écologique. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'affirmait. Maintenant qu'il est au gouvernement, une certaine difficulté, finalement, dans ses fonctions.
Oui, alors ce sujet du glyphosate, il est hyper intéressant parce qu'il est à la fois au plus près du terrain. Et en même temps, il n'est pas seulement en France, il est évidemment au niveau européen, puisqu'on s'attendait il y a quelques semaines à ce que, au niveau européen, le Conseil européen dont parlait votre invité à l'instant, décide l'extinction progressive, l'interdiction progressive du glyphosate, qui, je le rappelle, est essentiellement le Roundup, c'est-à-dire en fait un herbicide puissant qui est très utilisé par les céréaliers, mais qui est utilisé aussi massivement en fait par l'ensemble des agriculteurs. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y avait une pétition signée par plus d'1,5 million de citoyens européens, parce qu'il est aussi dans nos assiettes, le glyphosate. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des études, notamment sur les céréales, les pâtes, enfin ce qu'on mange, on s'aperçoit qu'on mange du glyphosate. Donc c'est pas seulement un sujet pour les agriculteurs, c'est aussi un sujet pour les consommateurs. Et au fond, effet de surprise, effectivement, comme l'Allemagne est très affaiblie depuis plusieurs mois par la recherche d'une solution gouvernementale, le ministre de l'Agriculture allemand vote contre l'interdiction du glyphosate alors qu'ils étaient censés soutenir la France qui était pour l'extinction. Donc ensuite, il y a tout un jeu autour de cette extinction du glyphosate. Et ce qui est intéressant dans la position d'Emmanuel Macron, que relaie évidemment Nicolas Hulot, c'est que on met une espèce de sens à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau européen, il n'y a pas de sens. On dit, on a prolongé. Tandis que là, on dit, on va vers une extinction progressive de l'utilisation du glyphosate. Ensuite, il ne faudrait pas que Nicolas Hulot, soyons clairs, devienne le ministre des dérogations. C'est-à-dire qu'il a déjà fait des... Il a déjà dit des choses sur le nucléaire, il dit des choses sur le glyphosate. Il ne faut pas qu'il devienne, au fond, l'envoyé spécial lorsqu'il faut dire on se heurte au mur du réel. Il est aussi, parce qu'il est ministre de l'écologie, là pour lutter de façon à ce que le réel se transforme.
Donner un sens, nous orienter, je citais Bruno Latour tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler évidemment, mais puisque vous vous y invitez presque par votre réponse, Lucille Schmitt, je voulais vous entendre sur l'un des articles qui est dans ce numéro de la revue Esprit, article signé Guillaume Saint-Denis sur quelle justice climatique, où l'auteur qui reprend un petit peu finalement cette opposition entre la question sociale et la question environnementale en s'interrogeant qu'est-ce qu'on doit privilégier et surtout qu'est-ce que ça voudrait dire de privilégier la question environnementale sur la question sociale aujourd'hui.
Ce que montre l'article de Guillaume Saint-Denis, c'est qu'au fond, on a tendance à esquiver les contradictions qui sont aujourd'hui inscrites dans les politiques publiques. C'est-à-dire à faire comme si lutter pour plus de justice sociale voulait forcément dire qu'il y a plus de justice environnementale, ou en tout cas qu'on préserve mieux l'environnement. Et tout l'intérêt de cet article, c'est de montrer qu'au contraire, il y a des contradictions qui tiennent un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la greffe écologique, c'est-à-dire que quelque part, ce qu'on peut dire sur l'agriculture existe aussi, par exemple, sur la fiscalité. Lorsqu'on organise une fiscalité redistributive aujourd'hui en faveur des personnes qui ont donc des revenus faibles, lorsqu'on organise une fiscalité, par exemple, sur l'essence, la question du diesel est quand même très emblématique, On ne pense pas environnement lorsqu'on met en place la fiscalité. Et d'ailleurs, lorsqu'on réfléchit fiscalité écologique, sachant que la France est quand même un pays qui est un des pays qui a le moins de fiscalité écologique en Europe, on fait quelque part des exercices parallèles souvent. C'est-à-dire que on n'intègre pas la préoccupation environnementale aux exercices de fiscalité plus larges qui sont menés maintenant depuis plusieurs années, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut refondre le système des impôts, parce que on sait qu'il faudra affronter dans le débat public, le fait de dire qu'il faudra transformer les mesures sociales de façon à les rendre compatibles avec davantage de préservation de la biodiversité, avec la prise en compte des liens entre santé et environnement. Et au fond, on esquive une difficulté parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Je crois qu'il faut quand même se dire ça aussi. C'est pour ça que la position de Nicolas Hulot, faut pas la stigmatiser. Il est aujourd'hui au pouvoir, il est ministre. C'est autre chose qu'un pouvoir d'interpellation lorsqu'on est dans une fondation. Mais ça signifie quand même que ce n'est pas une excuse pour ne pas avoir de créativité et d'imagination pour transformer les choses lorsqu'on est au pouvoir. Il faut pas seulement faire du discours. Et je crois qu'un des éléments très, très difficiles, en fait, sur les questions écologiques, et je pense... Là-dessus, par exemple, Stéphane Le Foll, qui était ministre dans le gouvernement précédent et qui connaissait bien l'agriculture, parlait déjà beaucoup d'agroécologie, mais on se retrouve quelque part avec une déception par rapport aux résultats. Il y a eu un texte de loi, il y a eu des choses qui ont été faites, mais on n'y arrive pas pour une raison très simple, c'est que pour transformer, d'abord, il faut dégager des fonds. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'investissement qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut réfléchir au rôle de l'État par rapport à celui de la société. On peut plus se contenter aujourd'hui de dire que c'est à la société de faire. Je crois qu'un État écologique, il faut le penser. Et puis, il y a un sujet sur la relation aux grandes entreprises. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation aujourd'hui où on a parlé beaucoup de moralisation de la vie publique, la question du rôle des lobbies économiques assez puissants qui aujourd'hui ont le pouvoir de faire passer des idées, parfois même... des amendements au Parlement, c'est quelque chose d'important. C'est important pas seulement en France, c'est aussi important au niveau européen. C'est aussi important quand on fait des accords de libre-échange, puisqu'on parlait du Mercosur.
Donc c'est ça qui est compliqué avec cette affaire de l'écologie, si vous me permettez, Lucille Schmitt. C'est finalement réussir à combiner la capacité à raconter une histoire, à penser évidemment ce futur, cet avenir, et de l'ancrer politiquement dans une démarche. Oui, dans une démarche volontariste. Vous parliez finalement de la fiscalité. On se rappelle par exemple de Ségolène Royal disant il ne faut pas aller vers une écologie punitive, une fiscalité punitive, parce que voilà, on n'arrive pas à entraîner finalement la société avec cette approche-là. Et pourtant, vous nous le dites, il faut bien utiliser les moyens qui sont les nôtres. Et finalement, si on en revient à cette question de la justice sociale, est-ce que c'est une bonne entrée pour vous dans cette question écologique, dans cette question politique de l'écologie? Et il y a une question subsidiaire à ça. Est-ce qu'il y a des partis à ce moment-là, ou en tout cas des orientations politiques, on nous dit qu'il n'y a plus de droite ni de gauche aujourd'hui, mais malgré tout, c'est peut-être un peu présent encore. Et est-ce qu'il y a une façon politique orientée, idéologique, d'aborder l'écologie qui pourrait paraître presque positive?
Moi, je pense que la question, vous avez tout à fait raison de parler de justice. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans les négociations climatiques menées par l'ONU, le sujet de la justice climatique est un point fondamental qui, au fond, a permis d'avancer lorsqu'on était sur ce grand principe de responsabilité commune mais différenciée entre le Nord et le Sud. Pourquoi ? Parce que ça a permis aux pays du Sud de faire passer l'idée que, parce qu'ils avaient quelque part subi une exploitation économique et sociale, aujourd'hui ils avaient le droit de prendre en considération la lutte contre le réchauffement climatique avec un investissement supplémentaire des pays du Nord, qui est une sorte de reconnaissance d'une responsabilité historique. Donc le sujet de la justice, il n'est pas seulement international, il est évidemment aussi national, il est local, etc. Après, lorsqu'on dit justice sociale, il ne faut pas se contenter évidemment du concept, il faut essayer de voir où sont d'abord les inégalités environnementales, écologiques, et on voit bien qu'elles existent. Elles existent énormément sur les questions de santé et environnement. On sait que, par exemple, lorsqu'on habite à côté du périphérique, dans des logements sociaux, on subit bien davantage la pollution que lorsqu'on habite une belle villa plus loin, ou d'ailleurs pas tellement plus loin, mais mieux protégée. On sait que l'alimentation est aujourd'hui un sujet extrêmement fort lorsqu'il s'agit de montrer les inégalités sociales, que l'obésité progresse davantage dans les milieux les plus précaires, les plus populaires. Et on sait en même temps que l'écologie des classes populaires, on en parle beaucoup, mais qu'on a du mal à imaginer les mesures emblématiques on ne sait pas ce que ça recouvre finalement. Alors par rapport aux engagements ou aux discussions qui ont eu lieu, c'est vrai que pendant la campagne électorale de 2017, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon est sans doute le candidat qui a... le mieux, essayer d'articuler cette question des classes populaires et de la question écologique. Il a des tas de défauts, hein, Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas, quand il fait un contre-salon de l'agriculture, moi j'ai trouvé ça assez génial. Lorsqu'il parle de règles vertes dans la Constitution, il dit quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que au fond, il dit qu'il ne faut plus se contenter de chartes de l'environnement où on affirme un principe de précaution totalement évanescent. Il dit une règle verte, c'est une manière, justement, par rapport à ce qu'on disait par rapport à Guillaume Saint-Denis, c'est une règle qui permet de voir que quand on prend une mesure de politique publique, lorsqu'on la vote, il faut qu'elle ne soit pas contraire, au fond, à un objectif de préservation de la biodiversité. Et donc, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait passé une étape. Après, le sujet, c'est que il y a aussi le sujet de la démocratie écologique. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas seulement un homme providentiel de l'écologie ? Moi, j'y suis très attachée. Et donc, je pense que la question du foisonnement des projets locaux et la façon dont on peut rassembler les choses au niveau national est quelque chose qui est devant nous et sur lequel il faut évidemment travailler.
Oui, c'est la question de la société, évidemment, de la société avec ou contre l'État que vous développez dans l'article que vous écrivez vous-même, Lucille Schmitt, dans ce numéro de la revue Esprit, Les Mondes de l'écologie. Et j'aimerais qu'on termine juste sur cette question de la justice et des inégalités, puisque finalement, la question de l'égalité qui se pose, vous l'avez dit, c'est de l'égalité entre le Nord et le Sud, par exemple, mais c'est aussi l'égalité entre les générations. Est-ce qu'il faut penser l'égalité à l'échelle d'une génération, entre les générations? C'est une question abyssale pour des hommes ou des femmes politiques engagés dans une volonté de véritablement de transformation.
Ce que je pense, c'est que quand on pense notre relation à la nature, ça doit nous aider à relativiser notre propre existence. Pardon de dire une chose un peu spiritualiste, mais vous savez, on fait beaucoup de prospectives en écologie, et quand vous mettez en fait des échéances lointaines, vous avez parfois des gens il y a une espèce de cri du cœur, genre « Ah oui, mais je serai plus là ». Enfin, sauf que c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est et c'est pas tellement non plus de dire « Oui, mais pour nos enfants, il faut qu'on fasse ça ». Non, la question, c'est pas seulement pour nos enfants, c'est tout simplement la question de la relation entre la nature et l'humanité. On peut aussi faire les choses, j'allais dire, pour les baleines, hein, vous savez, on peut aussi éprouver de l'affection pour les animaux, pour les plantes, et ne pas toujours ramener les choses à notre propre humanité. Il y a une grande discussion philosophique sur qui est l'origine de quoi. Est-ce que c'est moi qui suis l'origine des choses, ou est-ce que c'est la nature, bon, certains diront Dieu. Mais au fond, cette question écologique, elle nous aide certainement à penser les choses en termes de transgénérationnel ou d'infragénérationnel, comme vous le disiez, mais elle nous aide aussi tout simplement à dépasser la question de l'humain et à intégrer cette question des non-humains, comme l'a très bien fait par exemple Bruno Latour, ça a été précurseur là-dessus, mais comme c'est aussi très présent, y a un livre qui vient de paraître, préfacé par Catherine Larère, sur « Faut-il donner le droit de vote aux arbres ?» C'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de la cause animale, mais aussi autour de la question de notre relation à la nature, du manque que nous avons de la nature aussi, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue sur le fait de se remettre dans un écosystème, et c'est là que il faut faire attention, et c'est pour ça qu'on a appelé le numéro d'Esprit Les Mondes de l'écologie, à ne pas être dans un monde trop technique où là on valorise beaucoup la lutte contre le réchauffement climatique avec des termes parfois techniques, etc. C'est pas au détriment, mais ne pas oublier cette question de la biodiversité, ne pas oublier cette question des océans. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans la nature. On voit beaucoup dans les villes la façon dont il faut construire autrement. On voit beaucoup comment il faut transformer notre relation à l'énergie. Mais comment est-ce qu'on articule ces deux préoccupations ? C'est un premier point. Et ça conduit à un deuxième point qui est celui de comment est-ce qu'on articule les imaginaires écologiques autour de la littérature, de l'art, etc., à des imaginaires plus techniques. Nous, on a essayé de sortir en fait du débat sur l'écologie des solutions et l'écologie catastrophiste pour montrer qu'il y avait une diversité de langage, d'agenda et de manière d'être à l'écologie qui était sans doute passionnante.
La question qui se pose finalement, Lucille Schmitt, c'est comment on s'adresse aux citoyens, comment on s'adresse à la population. C'est une des questions que se pose également le philosophe Dominique Bourg.
Premièrement, le problème est peut-être tout d'abord anthropologique avant d'être démocratique. Anthropologique en ce sens que nous autres humains, bien, nous sommes des animaux. Et ce qui nous fait en général réagir, c'est un danger immédiat, facilement perceptible, qui n'exige pas un long effort d'interprétation et qui s'impose à vous. Si vous êtes chasseur-cueilleur et si vous voyez un mammouth débouler sur vous, vous n'allez pas chercher Quintin dans votre bibliothèque. Vous dégagez. Et donc, en fait, nous autres humains, on prend en quelque sorte les jambes à nos coups et puis on ne réagit fortement à un problème que lorsqu'il est massif, présent, évident. Ça, c'est vraiment un trait anthropologique. Or, les difficultés environnementales, non seulement elles sont abstraites, c'est-à-dire on voit pas forcément l'origine du danger, et ça n'est pas vrai que pour le climat. Ça serait vrai si j'avais du plutonium ici. Dans cette salle, il y a probablement des micropolluants, je ne les vois pas. En fait, toutes les grandes difficultés environnementales, l'érosion de la biodiversité, etc., je ne le vois pas. Même l'érosion des populations animales, je ne le vois pas. Ou alors j'ai parfois des petits indicateurs, comme mon pare-brise pour les insectes, l'été, hein, si j'ai un petit souvenir de ce qui est arrivé il y a une vingtaine d'années. Ok, j'ai des petits indicateurs comme ça, mais grosso modo, je ne vois pas le problème. Donc quand je ne le vois pas, eh bien effectivement, je ne suis pas enclin à agir.
Quand je ne vois pas le problème, je ne suis pas enclin à agir. Voilà ce que dit le philosophe Dominique Bourg. C'était au micro d'Adèle Vendrette en septembre 2015 dans les chemins de la philosophie, qui devait s'appeler les nouveaux chemins de la connaissance à l'époque. Je voulais vous entendre là-dessus, Lucie Schmitt, parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle du politique, c'est de rendre les changements climatiques visibles comme un mammouth?
Non, bah, d'abord, on n'est pas obligé de partager complètement l'opinion de Dominique Bourg, consistant à dire que nous sommes des animaux réactifs et que ce qui nous intéresse, c'est le court terme. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est vrai et pas vrai. Je pense que la question de la projection dans le long terme fait partie de l'humanité. Donc voilà. Et je pense, deuxième point de relatif désaccord, qu'aujourd'hui, il y a une forme de visibilité du réchauffement climatique beaucoup plus net qu'il y a peut-être encore une dizaine d'années. Vous savez, vous allez chez un vétérinaire, il vous dit qu'aujourd'hui, les animaux n'ont plus de poils d'été ni d'hiver, qu'ils passent leur temps à changer de poils. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux en France, je ne vois pas pourquoi le vétérinaire ne l'aurait dit qu'à Lucille Schmid. Bon. Vous avez un jardin, vous voyez que les fleurs, vous avez des roses en décembre. Donc il y a une sorte de visibilité qui est peut-être un truc un peu d'écologie de mamie. Mais ça fait réfléchir. Donc moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que nous sommes court-termistes et que nous ne voyons pas. Je pense qu'en revanche, là où Dominique Bourg a totalement raison, c'est de dire, mais au fond, comment est-ce qu'on rend les choses compréhensibles par tous? Et c'est là que, sur l'écologie, il y a un vrai sujet qui est différent de celui des... Enfin, peut-être l'économie, c'est un peu la même chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de l'articulation entre l'expertise et la démocratie, qui est un point essentiel, et sur lequel, par exemple, Dominique Bourg et d'autres ont fait des propositions pour avoir une chambre... du futur, qui soit une chambre qui, au fond, aiderait, par exemple, nos parlementaires à comprendre ces enjeux de long terme, etc. Moi, je pense que les parlementaires, ceux qui ont un mandat, et j'ai eu longtemps un mandat, comme vous le rappeliez, ont effectivement un problème avec le long terme, parce qu'il faut être renouvelé. Ça ne veut pas dire que les citoyens ont un problème avec le long terme. Donc, ne confondons pas la classe politique et la société. Et sachons organiser cette expertise. Il y a beaucoup de scientifiques qui font aujourd'hui ce qu'on appelle des sciences citoyennes, c'est-à-dire essayer de faire comprendre au plus grand nombre des enjeux complexes. Et je pense que ça pose le problème, on parlait d'apolitisme tout à l'heure, ça pose aussi le problème de la science, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est un scientifique engagé pour garder cette neutralité qui fait partie, au fond, de votre légitimité professionnelle. L'écologie pose, lorsqu'elle entre dans le champ politique, des questions nouvelles, à la fois aux politiques, aux scientifiques et aux citoyens.
Des questions nouvelles, on va essayer de les lister avec vous dans les quelques minutes qui nous restent, Lucille Schmitt. Je rappelle que vous avez co-dirigé le dernier numéro de la revue Esprit, Les Mondes de l'écologie.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Et premier des problèmes, Lucille Schmitt, vous l'avez déjà évoqué il y a quelques instants, mais peut-être on peut s'arrêter un petit peu là-dessus. C'est le rapport entre l'État et la société, en définitive. Et vous avez signé un article dans ce numéro de la revue Esprit qui s'interroge justement sur cette relation. Il y a évidemment la question de l'expertise dont vous parliez à l'instant. Ça me fait penser, par exemple, à ce qu'ont pu écrire Sandra Logier et Albert Augien dans leur dernier livre Antidémocratie, où ils appellent, un livre qui est publié à La Découverte, où ils appellent justement à cette expertise citoyenne, à sortir de l'idée que voilà, l'expertise est nécessairement scientifique. Il y a là peut-être une façon de rééquilibrer les pouvoirs entre l'État et la société, de plus les opposer, mais de les faire marcher ensemble.
Oui, je crois qu'il faut reconnaître une chose, c'est que d'abord, il y a une crise de l'État, donc on ne peut pas considérer aujourd'hui que l'État est un pas vide et qu'il faut le respecter en soi. On a l'impression que là où il existe, c'est sur les questions sécuritaires ou sur les questions de politique étrangère, mais lorsqu'il s'agit, au fond, d'aménager le territoire, lorsqu'il s'agit même de jouer son rôle par rapport à la régulation économique, comme vis-à-vis de la SNCF, on voit bien qu'il y a une crise de l'État. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que les Français, la société française, ne réinvestiraient pas cette question de l'État sans considérer que c'est un État de surplomb qui est d'abord destiné, au fond, à redistribuer et à dire le bien. L'État a besoin de la société. À partir de là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on voit bien qu'il y a un foisonnement de projets locaux, et en plus que très souvent, lorsqu'on est un écologiste localement, on est attaché à l'associatif et à l'apolitisme. Et on est attaché aussi à une espèce d'échelle qui est une échelle humaine, qui est une échelle de petite communauté. Comment est-ce qu'on fait pour que ce chaînon manquant d'aller sur des projets structurants de transformation du territoire puisse être un sujet sur lequel il y a un dialogue entre l'État et la société? Moi, je pense que c'est un sujet passionnant. Et aujourd'hui, on voit bien une multiplication de conflits territoriaux. C'est-à-dire que on a vu ce qui se passe à Bure. On a plusieurs oppositions à des center parks, notamment à Roibon dans l'Isère. Donc on est dans une situation où il y a une multiplication de conflits territoriaux. En Ile-de-France, on a l'opposition au grand projet Europa City, avec un contre-projet très intéressant qui s'appelle le projet Karma. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas un dialogue de sourds et qu'au fond, il y a quelque chose qui se passe avec l'idée que l'expertise citoyenne peut apporter un mieux ?
Oui, parce que dans les éléments que vous citez là, on pense notamment à ce qui s'est passé sur la zone à défendre de Bure. On a le sentiment que cette relation entre l'État et les citoyens est celle, on va dire, de la violence légitime essentiellement, c'est-à-dire la capacité d'évacuer une zone qui certes est occupée de façon illégale. Enfin bon, il y a des discussions là-dessus, mais malgré tout, voilà, oui. Qui aux yeux de l'État est occupée de façon illégale. Alors peut-être pour qu'en penser, disent certains, allez, c'est là qu'on rejoint la politique. Ce qui s'est passé à Notre-Dame des Landes, l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc on voit bien que c'est très compliqué finalement de rééquilibrer les choses.
Oui, mais on voit bien aussi que les citoyens posent des questions légitimes, que le processus technocratique, bureaucratique, enfin on le qualifie comme on veut, aboutit à évacuer parce qu'il faut être efficace. Mais c'est une efficacité effrayante. C'est-à-dire que, par exemple, à Bure, le projet CIGEO, ça aboutit quand même à dire c'est la meilleure manière en fait d'enfouir, donc à 500 mètres, je crois, sous terre, excusez-moi, je suis pas une spécialiste du dossier, mais des déchets nucléaires qui sont 3% des déchets mais qui représentent 99% de la radioactivité et on en a déjà beaucoup et on sait pas où les mettre. Donc au moins l'opposition citoyenne amène à s'interroger sur faut-il rester à ce point dans l'électricité nucléaire. Sujet, et c'est le sujet n'est pas tellement le droit ou pas là. Le sujet c'est au fond comment est-ce qu'on parlait de génération, comment est-ce qu'on fait avec des déchets qui seront des centaines de milliers d'années plus tard encore actifs alors qu'on voit bien que à l'échelle d'une génération on oublie déjà beaucoup de choses.
Voilà, alors typiquement l'énergie, voilà un sujet régalien s'il en est, et un sujet technique aussi. En tout cas, quand des citoyens veulent rentrer dans le sujet, ils s'entendent souvent répondre plutôt, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les notions élémentaires à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue presque économique, politique sur ces enjeux-là. Comment faire là, alors en l'occurrence Lucille Schmitt?
Écoutez, j'étais à Nancy la semaine dernière et il y avait des personnes d'un quartier assez populaire qui ont en fait habitent des passoires thermiques et ils racontaient comment depuis 10 ans en fait ils se sont servis du sujet, emparés du sujet énergétique et comment ils ont commencé à rénover eux-mêmes leur maison avec évidemment l'aide d'artisans qui depuis se sont formés. Donc aucun sujet n'est impossible et donc il y a à la fois sur la rénovation thermique aujourd'hui des initiatives citoyennes, notamment de milieux populaires dans des passoires thermiques, ça c'est très intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien par rapport même à l'exemple allemand où il y a aujourd'hui de plus en plus d'Allemands qui produisent leur électricité, que un certain nombre d'associations d'économie sociale et solidaire pensent qu'en France, à un horizon qui place à 2030, ils estiment que 15% de l'électricité pourrait être produite par les foyers français. Et l'électricité est un des sujets sur lequel il y a le plus de mobilisation citoyenne. Peut-être parce qu'il y a entre guillemets, une sorte de bouc émissaire qui s'appelle EDF. Peut-être que la question du nucléaire a aidé aussi les citoyens à s'emparer d'un sujet. Vous savez, souvent, quand on commence à agir, c'est contre. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se passe. Et pour avoir discuté avec Winfried Kretschmann, qui dirige le Bade-Württemberg et qui avait commencé en coalition avec le SPD, qui maintenant est en coalition avec la droite, il dit « c'est grâce à l'idée du citoyen entrepreneur produisant son électricité que j'ai enraciné également mon mandat ».
Autre obstacle, Lucille Schmitt, vous allez dire que je mets que des obstacles sur la route de l'écologie politique, mais autre obstacle malgré tout, c'est que les États ne sont pas seuls face à cette question-là. Ils sont pris dans un système qu'on appelle la globalisation, c'est ce que rappelle le sociologue Bruno Latour.
La grosse contradiction, c'est que l'horizon vers lequel on se dirigeait était un horizon dit de modernisation, associé, disons, à la notion de globalisation, et cette globalisation n'a pas de planète correspondante. Donc, ou bien on change de planète, donc on change de sol sur lequel on va maintenant vivre, soit, c'est, beaucoup de gens le disent aussi, soit on abandonne complètement l'idée même d'avoir une vision réaliste de la géopolitique. Donc, la question assez simple, c'est de dire, entre la mondialisation et l'atterrissage, disons, le retour sur Terre, il va falloir choisir à un moment, et tout le monde le sent au fond, et on est déboussolé parce qu'on le sent, mais on ne nous a pas donné d'autres alternatives.
Lucille Schmitt, sur cette idée de Bruno Latour.
Oui, moi j'adore l'idée d'atterrissage parce que je pense que ça rejoint ce qu'on écrit d'autres, d'ailleurs Ami Dahan qui a écrit dans le numéro de la revue Esprit. Elle explique
sur gouverner le climat.
Oui, elle explique très bien avec Stéphane Écoute dans un gros ouvrage qu'ils avaient fait paraître au moment de la COP21 que tout dépend aussi de la mobilisation des sociétés au niveau national. C'est-à-dire que pour atterrir, il faut quelque part atterrir en Chine, atterrir en France, atterrir partout. Et notamment l'exemple chinois est très intéressant parce que il y a eu énormément de scandales de santé et environnement. On sait que la pollution à Pékin notamment est atroce, est insupportable. Et je crois que les autorités chinoises ont été elles-mêmes surprises des mobilisations et qu'aujourd'hui, il y a une progression très forte en Chine. Il y a un plan climat en Chine, il y a des plans climat qui est intéressante. À partir de là, il y a évidemment aussi la question du leadership diplomatique qui peut être intéressante pour eux. Je pense que ce qui se passe en Inde est également très intéressant parce que là, on a une société qui, quelque part, a gardé aussi le lien avec l'écologie, peut-être plus consubstantiellement que d'autres sociétés. Donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une sorte d'atterrissage, comme dit Bruno Latour, qui puisse être suffisamment représenter une telle masse critique que les États seront obligés de prendre en considération les sociétés.
Dans son dernier ouvrage, justement, Bruno Latour, qui nous explique cette notion, qui s'interroge où atterrir, fait aussi le constat que l'écologie, la transition, la question de l'écologie, du changement climatique est le bon indicateur, la bonne façon de regarder tout un tas d'événements politiques, par exemple la montée des inégalités. Et son idée, c'est de dire on a aujourd'hui une forme d'élite qui a fait sécession, qui a décidé de ne pas voir le réel et de dire, ou en tout cas de le voir, mais de s'en séparer, de dire il n'existe pas. Il pense évidemment à quelqu'un comme Donald Trump, le président des États-Unis, et de dire voilà, nous on veut conserver notre mode de vie, quitte à nier le réel. Comment faire face à ça? Alors là, vous allez me dire, la question est très politique. Et donc juste pour ces dernières secondes, je voulais savoir si pour vous, ça voulait dire que l'écologie politique doit s'ancrer dans un camp ou pas. Comment est-ce qu'elle doit aborder cette question aussi si compliquée?
Oui, d'abord, ce qui est très compliqué sur les élites, si on parle de Trump, c'est qu'il s'allie en plus avec ceux qui ont le plus à perdre d'un état d'esprit anti-écologique. On voit bien qu'il s'allie avec les classes populaires défavorisées, et là, il y a quelque chose qui est révoltant sur le plan politique. Après, choisir son camp, ça fait des années qu'on dit que l'écologie est politique et en même temps qu'elle n'est pas politique. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'on ne résout pas cette contradiction comme si on ne voulait pas que l'écologie trouve sa place dans le champ politique. Moi, je crois qu'elle n'appartient pas à un parti politique et que ce qui est essentiel en écologie, on l'a vu par rapport aux contradictions sur le social et l'environnemental, c'est qu'on ne peut pas se passer de penser le contenu, et c'est à partir de là qu'elle pourra choisir son camp. Mais il faut commencer par montrer qu'il y a des contradictions entre le social et l'environnemental, que la justice climatique ne va pas de soi, et aussi voir l'économie autrement. C'est un point sur lequel je voulais insister. L'écologie réhabilite la notion d'investissement, et elle réhabilite le long terme par rapport au court terme, et elle explique aussi que ça suffit, les milliards abstraits, il faut commencer aujourd'hui.
Mais Lucille Schmitt, peut-être que la solution, elle est dans la littérature, dans le cinéma. Vous terminez là-dessus, de nous donner un autre imaginaire, puisque tout ça a l'air si compliqué, comme je le disais à nombreuses reprises lors de cet entretien. Voilà, je sais que vous avez créé un prix du roman de l'écologie. Il y a la dernière partie de ce numéro de la revue Esprit sur les mondes de l'écologie est consacrée justement à cet horizon dessiné par les arts et par la culture.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit, par exemple, il y a un article qui s'appelle Littérature et écologie dans le numéro d'Esprit de Nicolas Léger, qui montre que la science-fiction est au fond un romanesque écologique. Il y a beaucoup de choses sur le cinéma coréen, beaucoup de personnes ont vu Okja, qui raconte l'histoire de ce gros cochon au fond extrêmement humain, avec lequel une petite fille s'entend bien. Donc on voit que l'écologie est présente, que peut-être elle était là avant qu'on s'en aperçoive. Et c'est vrai que avec des amis écrivains, romanciers, mais aussi des jeunes, qui en fait sont souvent des apprentis écrivains ou des élèves de l'École nationale du paysage, on a décidé de lire autrement le romanesque en France. Et on a sélectionné 6 romans qui, j'espère, convaincront les lecteurs français qu'il y a de l'écologie dans notre culture romanesque.
Et donc le prix du roman de l'écologie, je crois que vous allez le remettre le 10 avril, vous m'avez dit, Lucille Schmitt. Voilà, donc on suivra ça avec attention. Les mondes de l'écologie, c'est le dernier numéro de la revue Esprit que vous avez donc co-dirigé. Merci de vous être arrêté au micro de la Grande Table sur France Culture. Et merci également à toute l'équipe, Clémence Marie, Claire Maillot, Henri Leblanc, Chloé Leblon, Bertil Bourdon et Maxime Moreau. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Hubert. À la réalisation, Charlotte Roux.